La Bourse avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
Et à la mi-journée, la séance est en hausse, Cédric Decoeur.
Oui, Jacqueline, le marché parisien enchaîne pour le moment sa troisième séance consécutive de hausse, la troisième en trois séances depuis le début de la semaine, tant et si bien que depuis vendredi soir, le CAC 40 a déjà gagné 1,85%, l'indice qui actuellement progresse de 0,31% à 4486 points dans un volume d'affaires relativement étoffé, puisque ce sont déjà 2,2 milliards d'euros qui ont changé de main sur les valeurs du SRD. Ailleurs en Europe, la tendance est plus indécise, puisque Londres ne gagne que 0,12%. En revanche, Francfort progresse de 0,36% et l'Euroforce 80 fait un petit peu la synthèse de toutes les places en gagnant 0,22%. À noter toutefois que chacun retient un petit peu son souffle avant une batterie de statistiques à venir aux États-Unis cet après-midi. Pour autant, sur le marché d'échange, le billet vert reste ferme contre la monnaie unique. L'euro cote en ce moment 1,2455. Voilà, Jacqueline, je vous rappelle le CAC 40 qui lui progresse de 0,32% à 4486 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Et puis le résultat de la première course à Marseille, combinaison gagnante du Quintet Plus, 13, 3, 6, As et 5. 14h03, pour France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, dans 2000 ans d'histoire, le destin extraordinaire d'une impératrice, Joséphine. La nature m'a faite l'âme forte et décidée, elle t'a bâti de dentelle et de gaz. Tu m'as ôté plus que mon âme. Tu es l'unique pensée de ma vie. Lettre de Bonaparte à Joséphine, 3 avril 1787. D'histoire. Le 9 mars 1796, à 10h du soir à Paris, un officier d'état civil, le citoyen Leclerc, ne cache pas son impatience en attendant de procéder à un des mariages les plus extravagants de sa carrière. Tout le monde est déjà là depuis une heure, sauf le marié. Et Leclerc commence à s'endormir quand il entend enfin dans l'escalier le bruit de bottes du général Bonaparte. « Mariez-nous vite », demande-t-il en entrant brusquement dans la mairie du 2e arrondissement, où en 5 minutes, Leclerc expédie la lecture de l'acte de mariage et recueille le consentement des époux, tandis que Bonaparte passe au doigt de sa femme un anneau sur lequel il n'a fait graver que deux mots, « au destin ». Comme s'il avait pressenti l'avenir incroyable qui les attendait tous les deux. Lui, qui venait à peine d'être nommé général, et cette veuve d'un aristocrate guillotiné sous la terreur, et qu'il avait rencontré chez Barras quelques semaines avant leur mariage.
Oh, mais venez, général. Venez, je vous présente. Madame Récamier. Madame. Madame de Staël. Madame de Beauharnais.
Je sais ce que c'est la vie d'un militaire. Je suis veuve d'un officier.
Alexandre de Beauharnais, n'est-ce pas? Général de l'armée du Rhin, accusé de la reddition de la ville de Mayence et guillotiné.
Général, une tasse de chocolat.
Nous envoyions des quantités aux Antilles.
Aux Antilles?
Oui, c'est là où je suis née. Mon père possédait une plantation de canne à sucre avec 200 esclaves. Un royaume dédié au sucre et au soleil.
Moi aussi, madame, je viens de venir.
Bernard Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était la première rencontre, d'après ce téléfilm de Yves Simonneau, la première rencontre d'un des couples les plus célèbres de l'histoire, Napoléon et Joséphine, deux destins extraordinaires. Mais l'on en connaît surtout celui de Napoléon, en oubliant quand même le rôle qu'elle-même a pu jouer auprès de lui. Dans une biographie de Joséphine que vous avez écrite chez Payot, vous rappelez qu'elle n'était pas une potiche, hein, qu'elle a quand même beaucoup compté dans l'extraordinaire carrière de Napoléon.
Joséphine, son destin a été lié à Napoléon à partir du moment où ils se sont connus, et c'est vrai qu'ils se sont élevés ensemble jusqu'au sacre. Et quand Napoléon a divorcé en 1809, ça a été pour lui vraiment une séparation extrêmement difficile. C'est un couple qui a vécu vraiment en symbiose pendant plus d'une quinzaine d'années.
Alors, elle n'était pas une potiche, donc elle a joué un rôle politique et elle a surtout une vie. Elle rencontre, il faut le rappeler, c'est la scène qu'on vient d'entendre, elle rencontre, quand elle rencontre Napoléon, elle a 32 ans, elle a déjà une vie bien remplie et qui a commencé, on le sait, hein, à la Martinique. C'est une créole, c'est une fille d'aristocrate qui s'appelait d'ailleurs Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie et il n'y a pas de Joséphine là-dedans.
Non, en réalité, Joséphine, elle est née avec Napoléon. Son prénom usuel était Rose, jusqu'à ce qu'elle connaisse Bonaparte, on l'appelait Rose de Beauharnais. Et c'est Napoléon qui a souhaité lui donner un autre prénom en féminisant son second prénom de Joseph en Joséphine. Donc c'est Rose de Beauharnais ou Joséphine Bonaparte. Et beaucoup de gens la connaissent sous le nom de Joséphine de Beauharnais qu'elle n'a jamais porté.
Alors ça, Beauharnais, c'était son premier mari, mais avant même d'être marié, rappelons peut-être cette enfance qui a beaucoup compté, on l'a entendu aussi dans l'extrait de film, à la Martinique.
Alors Joséphine, vous le disiez, avait 32 ans quand elle rencontre Bonaparte, c'est donc une femme complètement ancrée dans le XVIIIe siècle. Elle n'a que 8 ans d'écart avec la reine Marie-Antoinette.
Elle a 6 ans de plus que Bonaparte.
Hein, elle a 6 ans de plus que Bonaparte.
Elle est née en 1763.
Elle est née le 24 juin 1763, sur la paroisse des Trois-Îlets, sur le domaine de la Pagerie, d'une famille extrêmement ancienne, parce que les Tachères sont une famille qui remonte au Moyen-Âge, une famille d'extraction chevaleresque, dont qui est d'ailleurs très liée à la cour, puisque le père de notre future Joséphine a été un temps page de la dauphine Marie-Joseph de Saxe. Donc la famille n'est pas une famille complètement anodine. Et c'est vrai que une branche de la famille a tenté de faire fortune en s'installant aux Antilles, et c'est là donc où elle naît, en 1763, d'un père un peu désargenté.
Oui, il était planteur, je crois que la plantation de sucre a été dévastée par un cyclone, enfin bref, il est désargenté. Elle-même vit une vie un peu superficielle, à Fort-Royal, c'est-à-dire l'actuel Fort-de-France. On dit qu'elle n'était pas très cultivée, qu'elle ne savait pas écrire aussi.
Là, on a un peu exagéré. En fait, elle a eu l'éducation que recevaient les jeunes filles de la noblesse, que ce soit aux Antilles ou en métropole. Elle a été élevée par les dames de la Providence, donc elle savait lire, écrire, faire des travaux que les femmes faisaient à l'époque, c'est-à-dire de la broderie, un peu de musique, donc elle était bonne à marier.
Alors justement, c'est ce qui se passe, à l'âge de 16 ans, elle va en France, elle va épouser le fils d'un ancien gouverneur de la Martinique, Alexandre de Beauharnais, dont elle aura deux enfants, Eugène et Hortense. C'est pas un mariage très heureux, hein.
Vous savez, c'est un mariage arrangé comme tous les mariages de cette époque. Elle quitte son île à l'âge de 16 ans, ne connaissant pas son futur. Lui-même, qui a 19 ans, est un jeune noceur qui a déjà un enfant naturel, une maîtresse, et qui épouse cette jeune fille parce qu'on lui a demandé de le faire. En réalité, les familles étaient déjà alliées par la tante de Joséphine était la maîtresse du père d'Alexandre. Donc ça crée des liens relativement serré, et c'est un mariage qui était complètement arrangé. Donc elle a découvert son mari en arrivant à Brest.
Ça marche tellement mal d'ailleurs qu'elle va retourner pendant quelques mois à la Martinique. C'est là qu'elle va apprendre la Révolution française et qu'elle apprend surtout que son mari, qui a beau être un aristocrate, son mari est tellement séduit par les idées de la Révolution qu'il va y participer. Au début, Alexandre de Beauharnais, c'est un révolutionnaire.
Oui, il fait partie de ces aristocrates libéraux avec les Lamettes, certains La Rochefoucauld, qui sont pour la Révolution. Et il va être entraîné par la Révolution elle-même. C'est vrai que par deux fois, Alexandre de Beauharnais est président de la Constituante, c'est-à-dire qu'il est le second personnage de l'État après Louis XVI.
Je crois que c'est lui qui va apprendre à la Constituante l'évasion, enfin le départ de Louis XVI.
Voilà,
Varennes,
il est présent au moment du retour de Varennes. Donc il joue un rôle très important, au point que les gens dans la rue, en parlant du petit Eugène, disaient notre petit dauphin.
Alors, rôle important aussi, militaire, puisqu'il va devenir général, commandant de l'armée du Rhin en 1792. Il est arrêté deux ans plus tard, en 1794, et il va être guillotiné. Pourquoi ce révolutionnaire a-t-il été arrêté et guillotiné? D'ailleurs, comme Joséphine n'a pas été guillotinée, mais Joséphine aussi a été mise en prison.
Oui, la révolution s'est durcie. On a voté la loi des suspects. Évidemment, Alexandre, qui était parti de l'armée du Rhin après la capitulation de Mayence, est retourné dans ses terres du Blaisois, et c'est là où on l'a arrêté comme un général ayant considéré comme une trahison, si vous voulez. Donc on l'a enfermé dans la prison des Carmes, où Rose, notre Joséphine, est venue le rejoindre peu de temps après sur une dénonciation, parce qu'elle avait essayé de fuir Paris en s'installant à Croissy, pas très loin de Saint-Germain. Et c'est là où également elle a été emprisonnée, on l'a ramenée sur Paris, et les deux époux se sont retrouvés dans la même prison pendant un certain temps.
Alors sauf que lui a été guillotiné, manque de peau, il est guillotiné 4 jours avant la chute de Robespierre, c'est avant la fin de la Terreur, alors que Joséphine, elle, grâce à ça, va y échapper.
Oui, mais aurions-nous eu la vie avec Napoléon,
bah oui, justement,
si Alexandre avait échappé à la guillotine.
Alors, elle sort de prison, elle se retrouve veuve, elle est sans ressources, mais elle a beaucoup de charme, hein, et c'est comme ça qu'elle fait la rencontre d'un homme très important, celui qui a fait tomber Robespierre, qui sera directeur du nouveau régime, le directoire, et qui est Barras. Alors, on s'est demandé, est-ce qu'elle était, elle n'était pas la maîtresse de Barras, qu'il y avait beaucoup de femmes dans son entourage, Bernard Chevalier.
D'abord, avant de répondre exactement à votre question, il faut noter une chose dans la vie de Joséphine, c'est une constante, elle se rapproche toujours des hommes en place du pouvoir. Mmh. Non pas pour le plaisir d'exercer le pouvoir, mais pour les avantages qu'il rapporte. Alors, quels ont été ses rapports avec Barras? Barras était évidemment le plus éminent des directeurs du directoire. Il était entouré d'un essaim de jeunes femmes tout à fait à la mode, comme Madame Tallien, comme Madame de Beauharnais. Jusqu'où leurs relations ont-elles été, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Barras n'était pas uniquement porté sur les dames, et que les relations que l'on a attribuées à Joséphine sont peut-être uniquement des inventions des historiens du 19e siècle.
En tout cas, c'est chez Barras que Joséphine rencontre, enfin Joséphine qui s'appelle encore Rose, hein, rencontre Bonaparte en 1795. Bonaparte qui vient de se rendre célèbre en écrasant un soulèvement royaliste le 13 Vendémiaire, qui tombe amoureux de Joséphine et qui trouve, quelques jours plus tard, un excellent prétexte pour la revoir.
Est-ce que votre fils est là?
Oui.
Voulez-vous le prier de venir?
Eugène! Général Bonaparte voudrait te dire un mot.
Eugène de Beauharnais, je remets entre vos mains l'épée de votre père.
Oh, merci. Merci.
Quel est votre âge? Quoi, si c'est pour vous épouser?
J'ai 32 ans.
Et moi, 26. À la mairie, tu en auras 6 de moins et moi 3 de plus. Et nous finirons bien par nous rencontrer.
Et le 9 mars, il l'épousait en 5 minutes, s'étant déclarés tous les deux du même âge et lui se prétendant né à Paris. Ce qui resta toujours sans explication. 48 heures plus tard, ayant quitté sa femme, ayant quitté la France, il allait vers la gloire qui l'attendait au pont d'Arcole.
Et c'était un extrait du Napoléon de Sacha Guitry dont on a reconnu la voix. Le mariage de Napoléon et Joséphine, décidé en quelques jours, célébré en 5 minutes, d'une manière tout à fait extraordinaire. D'abord, il arrive en retard au mariage, il a pour l'air très pressé. En plus, je crois que c'est vrai, ils ont triché tous les deux sur leur âge. Hein. Vous le rappelez, Bernard Chevalier, il a 6 ans de moins qu'elle. Alors du coup, il se vieillit de 18 mois, elle se rajeunit de 4 ans. C'était par coquetterie?
Oui, c'était beaucoup plus facile, par coquetterie. Et la coquetterie a duré pendant tout l'Empire, parce que même dans les almanachs impériaux, qui étaient l'édition officielle, Napoléon avait exigé que Joséphine soit née en 1768. Et jusque l'almanach de 1814, elle est née en 1768 pour tout le monde, alors que tout le monde savait qu'elle était de 63.
Mmh. Alors, il se marie vraiment à la va-vite. Qu'est-ce qui les a poussés l'un vers l'autre? C'est quand même deux tempéraments extraordinairement différents. Bernard Chevalier, lui, c'est un homme un peu expéditif, manifestement complètement fou, amoureux de sa femme. Il le restera d'ailleurs pratiquement toujours. Et elle, au début, bon, elle s'en préoccupe moins. Qu'est-ce qui l'a poussé? Elle, on dit souvent que c'est Barras qui l'a jeté littéralement dans les bras de Bonaparte, parce qu'il voyait en lui, d'ailleurs il venait de le nommer chef de l'armée d'Italie, il voyait en lui un homme d'avenir, et il aimait bien avoir auprès de Bonaparte quelqu'un, Joséphine, qui pouvait l'espionner.
Oui, en fait, ça c'est la version de Barras dans ses mémoires, mais il faut dire que c'est un mariage en fait qui les a arrangés tous les deux. Joséphine se retrouvait veuve avec des enfants de 11 ans et 13 ans. Il fallait qu'elle ait un soutien. Or, ce jeune général, qui avait l'air d'avoir un avenir intéressant, qui avait quand même une solde importante, constituait pour elle une sécurité. Elle en épousait celui-ci comme elle en épousait un autre. L'ennui, c'est que Bonaparte, lui, était complètement amoureux, comme vous l'avez dit, de Joséphine. Mais il y avait également un certain intérêt du côté de Bonaparte, qui voyait en Joséphine la représentante de cette aristocratie française à laquelle il n'appartenait pas vraiment, et qui lui permettait d'ouvrir les salons aristocratiques et qui l'aidait également dans sa carrière. Pour Joséphine, ce mariage est un mariage d'ancien régime, comme son premier mariage. Elle épouse un homme pour faire une fin, mais voilà, pas de chance, le mari est amoureux. Ça, c'est terrible. C'est d'ailleurs
De son charme, hein, elle n'était pas très belle. Tous les portraits que l'on voit, sur le couverture de notre livre, au château de la Malmaison, dont vous êtes le conservateur, c'est pas une belle femme.
C'était pas une beauté, mais je pense que sa démarche, sa grâce, le son de sa voix, faisait que c'était un personnage que l'on aimait immédiatement. Mmh. Et c'est vrai que ce mariage mariage arrangé. Imaginez cette femme qui tombe sur un mari amoureux. Mais c'est du dernier bourgeois pour une femme de l'Ancien Régime. Ça ne se fait pas.
Alors, il est follement amoureux d'elle parce qu'il part en Italie 3 jours après leur mariage. Hein, ça va pas durer très longtemps, les noces. Mais alors, il lui écrit des lettres enflammées alors qu'il est en train de remporter des victoires extérieures. C'est l'une des plus belles campagnes de Napoléon. C'est Arcole. Il pense qu'à sa femme. Enfin, bien sûr, en face de lui, il y a les Autrichiens, il y a les Italiens. Il remporte des victoires inouïes. Mais alors, il n'attend qu'une chose, c'est que Joséphine vienne le rejoindre en Italie, ce qu'elle ne fait pas.
D'abord, il attend qu'elle lui écrive, ce qu'elle fait de temps en temps. Sur un ton des fois qui lui déplaît, puisqu'il y a une lettre dans laquelle apparemment Joséphine le vouvoie, et lui, dans un moment de rage, lui répond « vous toi-même ». C'est vrai qu'elle n'a pas envie de venir en Italie, sur le champ des combats. C'est une femme de Paris qui veut rester auprès de ses amis, auprès de Tallien, de Barras, et arrive à ce moment-là cette grossesse qu'elle déclare à Bonaparte.
Alors, elle fait croire qu'elle est enceinte.
A-t-elle été feinte? N'a-t-elle pas été feinte?
En tout cas, elle fait croire pour pas y aller en Italie. Oui. Ça prouve qu'elle n'est pas pressée de rejoindre
son
mari.
Elle n'a pas du tout envie d'y aller.
Ouais.
Au point que, finalement, Bonaparte ayant menacé de remonter sur Paris pour voir sa femme, c'est le directoire même, c'est Carnot qui signe une lettre à Bonaparte disant « Maintenant que vous avez pris Milan, c'était le prétexte, votre femme va pouvoir venir vous rejoindre. » Et on met dans la voiture Joséphine avec Hippolyte Charles.
Alors justement, parce que Hippolyte Charles, en réalité, elle n'est pas pressée parce qu'elle a trouvé un séduisant capitaine, qu'elle préfère manifestement à son général de mari, même couvert de gloire, qui s'appelle Hippolyte Charles.
Alors Hippolyte Charles est un genou pour elle, il est encore plus jeune que Bonaparte. Et on verra d'ailleurs, c'est une constante dans la vie de Joséphine, tout le temps elle aimera être entourée de jeunes hommes. Alors, Charles a-t-il été seulement un sigisbé? Je pense qu'ils sont allés au-delà, puisque les lettres qui existent montrent une véritable passion. Charles a été vraisemblablement le grand amour de Joséphine, et elle l'a emmené avec elle absolument partout.
En Italie. Alors que Napoléon, à l'évidence, ne savait pas encore, ne connaissait pas encore son infortune. Enfin, on ne sait pas très bien. Hein.
Non, mais ces lettres sont délirantes.
En tout cas, il revient couvert de gloire d'Italie, et à son retour, elle lui fait visiter une maison qui deviendra célèbre.
Ça s'appelle
la malmaison, général, la mauvaise maison. En souvenir des barbares normands qui débarquèrent ici autrefois et y commirent d'horribles méfaits. Et je vais ouvrir la maison.
Eh bien, moi, j'en ferai la maison du bonheur. C'est vrai que comme ça, elle n'a pas fière allure. Mais si tu me laisses m'occuper de tout, bientôt, ça sentira bon. La joie, la vie, l'amour. J'étais encore toute jeune. Une voyante m'a prédit qu'un jour je serais plus qu'une reine. Aujourd'hui, je sens qu'elle a vu juste. Voilà mon palais. Toi, tu seras le roi.
Être ton mari me suffit. Je n'aime pas les rois.
Et cette maison de Rueil que Joséphine va acheter, elle va la rendre célèbre. C'est aujourd'hui le château de la Malmaison, dont vous êtes le conservateur depuis des années, Bernard Chevalier, qui a un drôle de nom, la Malmaison.
Oui, alors l'origine du nom est un peu incertaine. On imagine, parce que peu de documents, même aucun document n'existe sur cette période, que le nom est lié aux invasions normandes. Quand les Vikings ont remonté la vallée de la Seine pour faire le siège devant Paris, ils ont débarqué dans un lieu qui est tout à côté du château, qui s'appelle encore Malport, qui veut dire mauvais port. Donc on pense que le camp des Vikings était installé ici et que le souvenir des rapines, des pillages, des incendies est resté sous le nom de Malmaison, de mauvaise maison.
Alors elle devient folle de cette maison. Hein. Toute l'histoire de Joséphine est associée, enfin à partir du moment où elle l'achète, à cette maison. Entre-temps, son mari est parti en Égypte. Elle l'achète quand même, hein, même si ça coûte une fortune, peut-être nettement plus qu'elle ne peut le faire.
En fait, c'est bien pire que ça, parce qu'avant de partir en Égypte, Bonaparte avait confié sa fortune à son frère Joseph pour acheter le château de Ris, qui est maintenant Ris-Orangis, et des terres en Bourgogne, ce qui ne souriait absolument pas à Joséphine. Joseph ne faisant pas grand-chose, Joséphine reprend l'avantage et décide sur un coup de tête d'acheter le château. Elle signe l'acte le 21 avril 1799, mais sans un sou, puisque la fortune appartient à Joseph. Donc que fait-elle? Elle emprunte 15 000 francs au régisseur des vendeurs pour payer le premier acompte en se disant « on verra la suite ».
Extraordinairement dépensière, hein, Joséphine. On verra que Napoléon va constamment honorer ses dettes, mais des dettes considérables. Hein, et ce château va être un gouffre d'ailleurs. D'abord déjà, elle le transforme dès le début, qu'elle l'a acheté.
C'est elle qui fait venir Percier et Fontaine, qui étaient complètement inconnus auparavant.
Deux architectes
qui rénovent entièrement le décor intérieur du château dans le de style néoclassique. C'était leur premier grand travail. Et plus tard, Percy et Fontaine vont devenir vraiment les grands architectes du régime. Et leur style sera imité dans le monde entier.
Alors, elle y organise des fêtes, où elle s'affiche d'ailleurs alors que Napoléon est en Égypte. Cela dit, Napoléon lui-même commence déjà à la tromper, notamment avec la femme d'un officier. Mais enfin, elle organise des fêtes et elle fait venir, évidemment, toujours Hippolyte Charles, avec lequel, dit-on, d'ailleurs, elle a aussi, il y a des affaires d'argent. Elle trafique un peu sur les fournitures de guerre, je crois.
Elle trafique même beaucoup, parce qu'elle était affiliée à la compagnie des frères Baudin, qui avait les fournitures aux armées, le directoire ayant décidé que les fournitures aux armées, il était plus facile de les donner à des compagnies privées. Donc, on vendait des chevaux aux bornes pour le prix des pur sang, et on avait un gros bénéfice à se partager. Et elle a fait entrer Hippolyte Charles dans la compagnie Baudin. Donc, c'était vraiment une affaire entre eux. Elle a eu des bénéfices énormes grâce à ces trafics d'influence.
Alors, pendant ce temps-là, Bonaparte fait sa campagne d'Égypte. Bon, c'est à la fois impressionnant, brillant, et en même temps, c'est un désastre. Il y a Aboukir, il est obligé de revenir. Et il apprend, d'ailleurs, je crois que c'est en Égypte qu'il apprend son infortune.
Alors, effectivement, Junot aurait à un moment donné fait des confidences à Bonaparte sous la tente, et c'est là où il avait dit que les guerriers d'Égypte étaient comme ceux de l'Antiquité, que leurs femmes les oubliaient autant, et qu'ils divorceraient en rentrant. C'était donc sa décision ferme et définitive.
Et il rentre donc en 1799, et tout de suite, avant de voir Joséphine, je crois que Joséphine essaie de se précipiter à sa rencontre, elle le rate. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
En réalité, dès que Joséphine a appris que Bonaparte venait, elle a voulu aller à sa rencontre pour éviter que ses frères commencent à dire pique-pendre sur elle. Et il y en a un qui a pris la route du Bourbonnais et l'autre la route de Bourgogne, si bien qu'ils se sont croisés. Bonaparte est arrivé rue de la Victoire, la maison était vide. Et Joséphine est arrivée deux jours après.
Oui, alors il arrive rue de la Victoire et c'était le 16 octobre 1799.
Joséphine me trompe.
Elle a fait venir son amant très peu de temps après son installation.
Député Hippolyte Charles. Et je le briserai.
Et ce n'est pas tout. Il y en a d'autres. Ta femme entretient des relations amoureuses avec Barras. Et fréquemment, elle s'affiche avec Goyer, le président du directoire. Occupe-toi de la France. Et je me chargerai de ton divorce.
Bonaparte, c'est moi. Ouvre la porte. Pourquoi m'accuses-tu? D'être sorti dans le monde? D'avoir donné des fêtes à la malmaison? Mais je l'ai fait. Je l'ai fait pour toi, parce que tu veux le pouvoir. Et pour ça, tu auras besoin d'alliés. Voilà pourquoi je rencontre ces hommes.
Et c'est une scène très connue, Joséphine qui retrouve Bonaparte, qui d'ailleurs, là, c'était raccourci, mais je crois qu'il y a eu une scène invraisemblable où elle l'a supplié, parce qu'il avait fait mettre ses affaires dehors à Joséphine, et il avait refusé qu'on lui ouvre la porte. Et je crois qu'elle a patienté pendant des heures, ou en tout cas très longtemps, avant qu'il finisse par lui ouvrir la porte.
Ça a duré en fait toute la nuit. Et au moment de se retirer, sa femme de chambre lui a suggéré d'amener les deux enfants, Eugène et Hortense. Et devant les supplications des enfants, Bonaparte n'a pas pu résister. La porte s'est ouverte. Et le lendemain matin, Lucien Bonaparte, qui voyait le divorce comme déjà fait, a retrouvé les deux époux dans le même lit.
Alors, vous citez Lucien Bonaparte, Bernard Chevalier. Il y avait aussi Joseph. Il y avait toute la famille, on devrait dire le clan Bonaparte, de la mère à tous ses frères et ses sœurs. Tous détestent Joséphine, à l'évidence.
D'abord, le mariage s'est passé de manière tellement rapide que Bonaparte n'a pas présenté Joséphine à sa mère et ni à son frère qui est l'aîné, qui est le chef de la famille. Donc à partir de ce moment-là, on a considéré cette Joséphine comme une femme du monde, une demi-mondaine, très légère, et il y a eu une véritable vendetta, on peut appeler ça comme ça, entre le clan Bonaparte et le clan Beauharnais.
Alors bon, elle ne sera jamais aimée par le clan Bonaparte, et notamment par la mère de Bonaparte, de Napoléon, Laetitia. Cela dit, il tombe dans ses bras, il se laisse élire, elle ne le trompera plus, hein, je crois. Hippolyte Charles finit, il va disparaître de la circulation. Elle va lui rester fidèle, et même elle va jouer un rôle très important. Quand il revient d'Égypte, on est à quelques semaines à peine du coup d'État des 18 et 19 Brumaire, Napoléon devient premier consul d'un nouveau régime, quelques années avant de devenir empereur, et là, elle mène déjà une vie de cour, elle accueille des tas de gens à la Malmaison, et surtout, elle accueille même le gouvernement. La Malmaison devient même le siège du gouvernement du consulat. Vous m'avez montré l'autre jour, en visitant votre château de Madame Almaison, les pièces où Napoléon travaillait quand il n'était pas à Paris, où il décidait, il a essayé de créer la Légion d'honneur, où il a décidé de rédiger des articles du Code civil. C'est extraordinaire ce qui s'est passé dans ce château, Bernard Chevalier.
Mais c'est vrai que pendant les trois années du consulat, avant le consulat à vie, en 1800, 1801 et 1802, Bonaparte n'avait comme résidence officielle que le palais des Tuileries à Paris. Aucune résidence de campagne. Donc c'est sa propre maison, Malmaison, qui est sa résidence de campagne. Donc il y fait installer une salle du conseil, il réunit les ministres, et comme vous l'avez dit, c'est là où il a l'idée de créer cette Légion d'honneur. On signe également les décrets qui créent le corps des préfets, l'installation des lycées, on ratifie le traité qui rend la Louisiane à la France, cette pauvre Louisiane
s'est découverte
récemment. Tout ça se passe à Malmaison, parce que Malmaison est le lieu de vie et le lieu de travail du premier consul.
Et de sa femme, si je puis dire, Bernard Chevalier, parce que elle y organise des tas de réceptions, de fêtes. C'est vraiment déjà, elle n'est pas encore impératrice, hein, elle est la femme du premier consul, mais elle se comporte vraiment comme telle. Et elle a joué un très grand rôle. On disait souvent sous le consulat que pendant que Bonaparte gagnait des batailles, elle gagnait les cœurs. Et c'était pas n'importe lesquels, parce qu'au fond, c'était dans le jeu politique de Bonaparte. Elle rencontrait énormément de gens de la noblesse de l'Ancien Régime, les Rémusat, les Montesquieu, les Ségur, et ralliée à ces gens-là Bonaparte. Elle a joué un rôle énorme de ce point de vue-là.
C'est un rôle extrêmement important que Napoléon lui a demandé de faire, parce que jamais Joséphine ne se serait lancée dans la politique sans l'autorisation de son mari. Et elle a tenu quasiment le bureau des émigrés. C'est elle qui faisait rentrer en France de nombreux émigrés qui étaient partis au moment de la Révolution. Elle a eu un rôle capital.
Et elle a même intercédé, alors là, elle prenait même un plus gros risque, on dit qu'elle a essayé d'empêcher, ça c'était à la veille du couronnement de Napoléon, elle a essayé d'empêcher son mari de faire exécuter le duc d'Enghien, hein, de la famille royale, le prince de sang, soupçonné d'avoir voulu attenter à ses jours. D'ailleurs, Joséphine aurait même pu y mourir à cet attentat, et elle a essayé de sauver le duc d'Enghien, ce qui fait qu'elle a gagné, évidemment, de ce point de vue-là, aussi le cœur des royalistes.
Oui, elle les a gagnés d'ailleurs à deux reprises. Déjà, au moment de l'assassinat du duc d'Enghien, elle s'est jetée au pied Bonaparte pour essayer d'avoir sa grâce, et aussi lors de l'affaire de Caloudal, elle a quand même sauvé la vie de Rivière, du marquis de Rivière, des Polignac, qui d'ailleurs ne lui en ont pas été du tout reconnaissants lorsque la Restauration est arrivée en 1814.
Et là, on est à la veille, nous sommes en 1804, on est à la veille en fait d'une étape essentielle qui va être le couronnement, c'est le cas de dire, du destin, du parcours de Joséphine. C'est l'impératrice, mais déjà elle est impératrice. Elle, à l'évidence, c'est une femme qui a énormément compté de ce point de vue-là. Bon, il y avait aussi de l'amour entre eux, parce que l'histoire de Joséphine Napoléon, c'est quand même une histoire d'amour, Bernard Chevalier.
D'amour et après de complicité, parce que l'amour évolue. Ça n'est plus un amour passionné, c'est un amour sage. Et c'est un couple extrêmement complice. On le voit par leur correspondance, des mots de... Quand Napoléon écrit à Joséphine, qui ne lui a pas écrit depuis déjà deux mois, « Daignez, puissante impératrice, descendre de vos grandeurs et vous occuper de vos esclaves ». Ça prouve un couple extrêmement complice, extrêmement uni.
Et on en parlera justement demain avec notamment, bien sûr, le couronnement de Joséphine et également le fameux divorce qui va la séparer de Napoléon pendant quelques années avant sa mort. Bernard Chevalier, donc on vous retrouve demain. En attendant, je suggère la lecture de votre livre que vous avez écrit, plusieurs livres, écrits avec l'un avec Christophe Pincemaille, l'impératrice Joséphine, édité chez Payot, qui vient d'être édité chez Payot. Vous êtes également l'auteur de Impératrice Joséphine, les correspondances de Joséphine, édité également chez Payot. Enfin, Douce et incomparable Joséphine, qui vient enfin d'être réédité, lui aussi chez Payot. À lire également sur le sujet, très récemment, un livre publié chez Perrin, l'impératrice Joséphine, édité dans la collection Timpus. À visiter également le musée de la Malmaison, dont vous êtes le conservateur, dont je recommande vraiment la visite. Il est passionnant et qui est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Vous avez pu